Il est 19h. Le Cop Inside, 19h-20h30. Retrouve toute l'actualité sportive des Pyrénées sur Radio Inside. 19h-20h30, résultats, analyses, interviews, invités. Tous les sports à tous les niveaux sont dans le Cop Inside. Présenté par Xavier Grosclaude avec Olivier Garcia, Marc Logini et Mathilde Fou.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Inside. Je m'appelle Xavier Grosclaude et je suis ravi de vous accompagner jusqu'à 20h30 dans le Cop Inside. C'est le retour de votre émission sportive hebdomadaire en direct sur Radio Inside, dans le Béarn et la Bigorre. Et cette année, nous vous proposons une nouvelle formule, de nouveaux invités, de nouvelles chroniques. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. En tout cas, une chose ne change pas, c'est la folle équipe qui m'entoure, puisqu'on retrouve toujours l'intrépide Olivier Garcia. Bonsoir Olivier.
Salut Xavier, salut à tous.
Est-ce que t'es en forme Olivier?
Ah, toujours en forme.
Ravi de reprendre ce soir.
Ouais, super content, ça me manquait là, il y avait 3-4 mois là, ça me manquait.
Oui. On y est, ça y est. On retrouve également l'expérimenté Marc Logini. Salut Marc.
Salut à tous.
Content de reprendre toi aussi,
ah,
Marc?
Oui, très content, un peu comme Olivier, on avait un peu d'impatience à reprendre et à vous retrouver tous. Là.
Et on retrouve aussi, pour compléter cette équipe, la resplendissante Mathilde Faux. Bonsoir Mathilde.
Bonsoir Xavier, bonsoir à tous.
Ça va Mathilde?
Ça va super, je suis ravie d'être là.
Motivée pour cette nouvelle saison?
Super motivée, pleine de nouvelles choses cette saison, donc j'ai hâte.
Voilà, on vous expliquera dans quelques instants en quoi consiste la nouvelle formule, cette émission Le Cop Inside. En tout cas, le principe global reste le même, c'est-à-dire qu'on va recevoir des invités, et d'ailleurs, l'un d'entre eux est là ce soir, et on va le présenter tout de suite, hein, puisqu'il s'agit de l'entraîneur de l'équipe 1 du club de Pouy de l'Escar au football, c'est Franck Charles qui est avec nous. Bonsoir Franck.
Bonsoir à tous.
T'es en forme Franck?
Oui, très en forme.
Merci d'être avec nous, on t'avait déjà reçu dans ces studios, c'était il y a un petit peu plus d'un an maintenant, le club de Pouy de l'Escar accédait à ce moment-là à la Régionale 3. Le voilà maintenant en Régional 2, on va y revenir tout à l'heure. C'est que du bonheur pour un entraîneur comme toi.
Ouais, tout à fait, c'est que du bonheur. Et puis, on prend les bonnes habitudes de venir vous voir.
Voilà, donc des nouvelles chroniques, des nouveaux invités. On revient sur ça dans quelques instants, juste après la pub. On vous parlera aussi de la manière de gagner des places. Hein. Ça, c'est pas nouveau. Hein. Les années précédentes, on vous le proposait déjà. La possibilité de gagner des places, notamment pour le match de la section paloise. Ça va se passer dans quelques instants sur le Cop Inside. A tout de suite. Vous écoutez le Cop Inside sur le 99.8 à Pau et dans le Béarn, sur le 88.7 à Tarbes et en Bigorre. Le Cop Inside, c'est la nouvelle émission des sports de Radio Inside, comme son nom l'indique. Alors, on va quand même vous présenter la nouvelle formule. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, les animateurs n'ont pas changé, mais la formule évolue un petit peu. Déjà cette année, on se retrouve pendant 1h30 tous les lundis soirs, donc de 19h à 20h30. Nous sommes toujours en direct sur Radio Inside avec toute l'équipe, donc Olivier, Marc, Mathilde, des invités, Franck Charles qui est avec nous ce soir pour nous parler du football à Pouy de l'Escar. Nous accueillerons aussi dans quelques instants l'organisateur de la Féminine de Pau, événement qui se déroulait hier matin, donc dans les rues paloises, Denis Badi sera avec nous et nous rejoindra donc un petit peu plus tard dans cette émission. C'est aussi le Cop Inside de nouvelles chroniques cette année, on va en parler un petit peu. Alors, parmi celles qui n'ont pas changé, avant de parler des nouvelles, on a quand même gardé, parce que c'est son moment de gloire en fait à Olivier Garcia, le kiff et la gifle. Olivier, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs qui ne connaîtraient pas encore l'émission des sports de Radio Inside ce qu'est le kiff et la gifle?
Alors déjà, c'était pas mon moment de gloire, c'était juste objectivement le meilleur moment le plus qualitatif de l'année dernière, c'est tout.
Si tu le dis.
De l'émission, je veux dire.
De l'émission, oui, tout à fait.
Espérons que tu sois au niveau cette année encore.
Hein. Non, il n'y a pas de souci, ça.
Olivier qui est toujours aussi modeste, hein, ouais, il n'a pas changé voilà. En 4 mois. Hein.
Oui, alors le kiff et la gifle, je vais présenter quelque chose que j'ai aimé, quelque chose que j'ai détesté tout au long de la semaine qui s'est passée, donc entre le lundi soir 20h30 et le lundi d'après 19h.
D'accord. Donc ça,
faire un petit choix, etc.
Voilà, le kiff et la gifle que nous retrouverons dans cette émission aux alentours de 19h35. Soyez bien à l'écoute, Olivier a bien préparé sa chronique, donc à 19h35. Autre chronique, nouvelle chronique cette fois. C'est le quiz du COP. Le quiz du COP qui est présenté par Marc Logini. Marc, est-ce que tu peux nous dire en deux mots en quoi consiste le quiz du COP?
Mais je vais mettre au défi les animateurs, éventuellement, pourquoi pas les invités de l'émission, sur une question ou voilà de l'actualité sportive locale.
Très bien, ouais. C'est clair, c'est précis.
Ça donne envie.
Le quiz du COP à retrouver à partir de 20h ce soir dans le COP Inside. On aura également l'occasion, avec Mathilde, de parler des échos du COP. Mathilde, c'est quoi les échos du COP?
Absolument, Xavier. Ben, en fait, c'est toutes les réactions du public, alors que ça soit sur place
ou emporté
au bord du match, n'importe. Et puis sur les réseaux sociaux, comme l'an dernier, voilà les réactions. Et puis on a déjà des réactions puisqu'on a créé de nouvelles pages. Donc pour le Cop Inside, une page Facebook et une page Instagram qui s'appelle le Cop Inside. Vous pouvez réagir sur tous les matchs et sur l'émission si vous avez des questions, des réactions. Et vous pourrez aussi gagner des places pour la section pendant l'émission.
Voilà, ça, on y revient dans quelques instants. Merci Mathilde pour cette présentation. Nouvelle chronique également, le chiffre du Cop que j'aurai le plaisir d'animer. Le chiffre du COP, c'est un chiffre qui a marqué un petit peu l'actualité sportive béarnaise et bigourdane depuis la semaine précédente, hein, un petit peu comme Olivier, entre le lundi 20h30 et le lundi suivant 19h. Donc ça sera l'occasion de mettre en évidence une performance sportive ou une contre-performance, hein, peut-être. On aura l'occasion de voir ça dans le courant de cette émission. Là aussi, ce sera après 20h pour ce soir. COP et match. On parie avec Marc, c'est ça?
Ouais, on va parier sur un match qui va avoir lieu, bien sûr. La semaine prochaine, hein, le week-end prochain, parce que parier sur un match qui a déjà eu lieu, c'était quand même plus facile pour Olivier, ça aurait été plus simple. Donc j'ai choisi un petit match qui va faire un petit peu l'actualité du week-end à venir. Et donc on fera un petit point toutes les semaines, puisque à chaque fois que le score sera trouvé ou que les paris seront gagnants, on marquera des petits points et on fera un petit classement tout au long de la saison.
Mais à la fin de l'année, c'est Mathilde qui paye le resto, quoi, c'est ça?
Ouais, on verra.
Peut-être que je peux te surprendre.
Ouais, Mathilde a son mot à dire. C'est le hasard des fois dans les paris, ça marche pas mal.
Mathilde, j'ai une petite réaction peut-être sur les réseaux sociaux.
Mais oui, notre fidèle auditeur Ludo qui est là et qui demande s'il y aura le chant du COP. Donc je sais pas, peut-être.
On pourrait y réfléchir pendant la saison.
Développer.
Effectivement.
On peut lui proposer de venir chanter avec
et
lui.
Et voilà. C'est ça, ainsi que tous les auditeurs qui le souhaitent. Très bien. Et dernière chronique, une nouveauté aussi, le labo du COP. On va décortiquer un sujet qui nous interpelle dans l'actualité sportive locale. Ce soir, justement, le labo du COP sera consacré à la féminine de Pau. Voilà, événement qui a eu lieu ce dimanche matin dans les rues paloises, comme je le disais tout à l'heure. Donc, qui fera l'objet de, justement, quelques investigations supplémentaires en présence de Denis Badi, donc l'organisateur de la féminine de Pau. Ça, voilà pour vous présenter un petit peu la nouvelle formule de l'émission sportive, le COP Inside, bien sûr sur les réseaux sociaux. Et Mathilde vous en a parlé tout à l'heure, chaque lundi, il vous sera possible de remporter des places pour aller voir et encourager les clubs béarnais et bigourdans.
Écoute le COP Inside et gagne tes places pour les événements sportifs de la région.
Alors comment ça se passe, Mathilde, pour gagner des places pour aller voir les événements sportifs de la région?
Alors c'est très simple, il suffit de suivre la page Facebook ou Instagram du COP Inside et de nous envoyer un petit message ou de commenter les publications, et puis on fera un petit tirage au sort à la fin de l'émission pour vous offrir deux places donc cette semaine pour aller voir Section Castres samedi à 18h au Hameau.
Super, c'est très clair, merci Mathilde. Un dernier mot quand même pour vous parler de cette émission, ça c'est quelque chose qui n'a pas changé, chaque lundi, je vous le disais tout à l'heure, on va recevoir des invités issus du milieu sportif local, que ce soit à Pau ou à Tarbes, à tous les niveaux, hein. On va avoir du sport amateur, du sport professionnel, ça c'est pas nouveau, et d'ailleurs vous qui nous écoutez, si vous souhaitez participer à notre émission, si vous avez des informations sportives à nous communiquer, vous pouvez le faire par le biais des réseaux sociaux, comme l'a évoqué Mathilde il y a quelques instants, mais vous pouvez aussi nous contacter tout au long de la semaine à l'adresse mail suivante, sport@radioinside.com, n'hésitez pas et vous pourrez participer à cette émission comme c'est le cas de Franck Charles ce soir qui est avec nous, l'entraîneur de l'équipe senior, l'équipe 1 de foot à Pouy de l'Escar, la belle aventure de Pouy de l'Escar, on va y venir justement. Franck, je le disais tout à l'heure en introduction, hein, Pouy de l'Escar qui était lors de votre dernière venue dans les studios en Régional 4 à ce moment-là, qui venait d'accéder à la Régional 3. Cette année, c'est la Régionale 2. Où est-ce que va s'arrêter le club de Pouy de l'Escar?
Ben, je l'avais plaisanté, j'avais dit qu'on allait s'arrêter au niveau régional, donc en Aquitaine. Sûrement pas de déplacement encore plus loin que cela. Ben, ça sera le cas, parce qu'on découvre bien qu'on change complètement de dimension. La Régionale 2, c'est un niveau vraiment supérieur à la Régionale 3. Donc on va entamer notre saison petit bras et on verra ce qui se propose à nous.
Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, Franck, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie, est-ce que ça t'occupe à plein temps d'entraîner l'équipe senior de Pouy de l'Escar?
Alors non, puisque j'ai une profession, je suis responsable d'une agence de location de matériel, qui me prend beaucoup de temps aussi, et entraîner Pouy de l'Escar, ça représente deux entraînements par semaine et le match du week-end, mais j'ai une mission de responsable technique dans le club aussi, où j'interviens dans la plupart des catégories du groupement jeune qui vient de se créer.
Ça fait combien de temps que tu es au club à Pouy de l'Escar?
C'est ma quatrième saison.
Et combien de montées?
Trois.
C'est pas mal, hein? Pas mal. Joli palmarès.
C'est pas trop mal.
Tu étais joueur de foot avant
J'étais joueur, ouais. Après moi je suis orthésien, j'ai joué à Orthez et dans des clubs autour d'Orthez et entraîné aussi là-bas. Quoi.
Est-ce que tu as un souvenir en particulier là, dans ta carrière de joueur ou d'entraîneur plus marquant que les autres?
Plus marquant que les autres, la petite anecdote c'est que j'ai gagné la Coupe des Pyrénées en tant que joueur et en tant qu'entraîneur.
Super. Ouais. Félicitations. Marc, une petite question.
Avec ce palmarès, Jean-Michel Aulas, t'as pas appelé?
Non, j'étais à Lyon pour le boulot justement la semaine dernière. J'ai croisé Silvino à l'aéroport.
Ah, il repartait.
C'était assez drôle, les joueurs m'ont chambré. Mais pas de contact de haut niveau.
C'est dommage.
Non, mais t'as vraiment croisé Silvino?
J'ai vraiment eu Silvino à côté.
C'était pas préparé, je savais pas.
Il était avec une casquette, une lunette de soleil, mais j'ai reconnu, forcément.
Et il t'a reconnu?
Lui, non.
C'est peut-être la dernière personne à l'avoir vu à Lyon. Hein.
Voilà, sûrement même. Sûrement. Oui.
Alors, le club de Pau et de l'Escar, juste avant de rentrer dans le détail de l'équipe senior et de ce superbe parcours, est-ce qu'en quelques mots, tu peux le présenter, ce club? C'est combien de licenciés, combien d'équipes, de têtes à peu près? Je crois qu'il y a une équipe féminine aussi qui joue à Pau et de l'Escar. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement le club?
Ouais, tout à fait. Donc, nous avons approximativement 250 licenciés, une équipe féminine, toutes les catégories représentées, hormis les 19 ans, puisque c'est un souhait du club d'avoir de suite les jeunes en senior. Et maintenant, avec le groupement jeunes, on se retrouve, je crois, à 200 jeunes des U6, U7 jusqu'au U17 ans.
Olivier, une question pour Franck Charles.
Oui, du fait de la montée en R2, est-ce que vous avez été sollicité par des joueurs plus huppés, entre guillemets, pour être mutés? Et est-ce que vous avez accepté des mutations? Vous avez eu des mutations, vous avez préféré garder le groupe originel?
Alors, toujours dans la même idée, nous, on met en avant l'état d'esprit. Forcément, le fait de monter, il a fallu regarder un petit peu ce qui se présentait à nous. Il y a eu des contacts. Il y a eu des contacts rapidement arrêtés puisque le discours, de suite, déjà au téléphone, ne me plaisait pas. Et en général, je vais plutôt vers des personnes que je connais ou qu'on me conseille.
Voilà. Pour qu'un club fonctionne aussi bien, c'est aussi l'œuvre de bénévoles, de personnes qui s'impliquent tout au long de l'année pour éduquer les jeunes joueurs, créer une formation aussi au sein du club. Est-ce que tu peux en parler aussi de ça à Pau et de l'Escar?
Oui, de toute façon, on ne peut pas réussir sans un club structuré. C'est le cas chez nous, même si on est un petit club encore. On a beaucoup de dirigeants. Je vois par exemple l'intersaison, c'est très bien passé, puisque la commission sponsoring notamment, je vais mettre en avant, puisqu'elle a énormément bien bossé. On va avoir des panneaux tout autour du stade. On a une nouvelle buvette, honnêtement il y a beaucoup de monde impliqué qui bosse dans ce club et il n'y a pas que le sportif. Quoi. Mmh.
C'est un parcours quand même atypique, hein, ça n'arrive pas tous les 4 matins de voir une équipe passer de la départementale 2 à la régionale 2 en quoi, 4-5 ans ça s'est fait?
Ça s'est fait en 4 saisons, ouais. Non c'est sûr que c'est pas commun, surtout quand on garde le même groupe. Après, c'est un ensemble de plein de choses, de bons gars, de gars sérieux, le club bien structuré, il y a de l'humain, et puis quand ça veut bien sourire, on a eu des périodes de confiance et on en a profité. Quoi.
Une saison dernière complètement folle, hein. Au début c'était la lutte pour aller chercher le maintien et puis une deuxième partie de saison tout à fait exceptionnelle.
On a joué le maintien jusqu'au mois de février. On est maintenu au mois de mars, je crois, début mars. Et puis après, on fait une série exceptionnelle de 9 victoires, je crois. Et j'ai eu un coach que j'ai souvent au téléphone qui a plaisanté en me disant « Mais Franck, vous êtes des fous furieux. Vous étiez à un point de nous au mois de février et vous finissez premier. » Et c'est sûr que c'est exceptionnel.
Olivier.
Et cette année, donc, vous êtes en R2. Qu'est-ce qui a changé? Tu as dit que c'était plus le même niveau, on va dire. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vos résultats ont été impactés ou est-ce que ça se passe quand même bien?
Ça se passe plutôt bien.
Tu te la pètes un peu?
Non, non.
On va y revenir dans quelques instants sur le résultat de début de saison.
Non, disons que on sent la qualité des joueurs différente. Le dernier match notamment, on avait une équipe landaise face à nous qui revient en fin de match à un partout. Un score nul mérité puisque toute la partie, j'ai vu une équipe très complète, de qualité qu'on n'avait pas rencontré l'année dernière. Après sinon le début de saison est quand même réussi puisque sur les 3 premiers matchs de championnat, nous avons 2 victoires et un match nul. Donc c'est un très bon début. Ouais.
C'est quoi la recette, s'il y en a une, de ce succès? C'est l'implication des gars, c'est l'entraîneur peut-être aussi un peu, des séances qui ont pu évoluer dans l'entraînement.
Bah, l'entraîneur, on sait bien que quand il gagne, oui, on parle de lui. Ouais. Quand il perd, c'est sa faute. Moi, je pense que c'est même pas 20% du résultat final. Après, oui, c'est déjà des joueurs concernés. Ils sont très assidus aux entraînements. Et puis après, il y a des paramètres aussi qu'on maîtrise pas toujours, des paramètres de chance, puisque pour faire des séries comme on a fait, il faut de la chance. Et là, actuellement, j'ai des blessés, par exemple. Ça peut aller dans le mauvais sens maintenant. Enfin, on va croiser les doigts, mais c'est pas des périodes faciles, quoi.
Donc on le dit, une équipe qui a très peu changé en 5 ans, même si effectivement il y a eu quelques arrivées, quelques départs. Est-ce qu'il y a encore des joueurs qui étaient là au début de l'aventure en D2 et qui sont encore sur le terrain aujourd'hui titulaires en R2?
On en a plaisanté avec mon président il y a pas longtemps, on a vu la photo de la D2. Nous avions 8 joueurs sur les 14 sur la photo de D2. Donc c'est quand même... plus de la moitié de l'équipe est encore là, oui.
Ouais. Des jeunes formés au club, notamment, qui ont passé les différents échelons chez les jeunes et qui jouent maintenant chez les seniors.
Ouais, chez nous, on a 80% de l'équipe formée au club. Après, on a été obligé de recruter, avec les montées forcément, mais on fait toujours un peu attention à ça.
Le fait de monter jusqu'à ce niveau-là, ça impose peut-être aussi quelques contraintes au niveau matériel, structurel. Quelles sont les difficultés auxquelles le club a pu faire face ces derniers mois, ces dernières années avec toutes ces montées?
Ben pour ceux qui connaissent notre terrain, déjà il a fallu clôturer tout le complexe pour le niveau où on était. Déjà en Régional 3 c'était le cas. Pour l'instant il ne nous est pas demandé d'autres travaux, mais je sais qu'on a agrandi les vestiaires. Il y a quelques travaux obligatoires dans tous les cas et pour le confort des joueurs et des adversaires.
Est-ce qu'il y a aussi des contraintes d'ordre un peu plus administratif, peut-être pour toi en tant qu'entraîneur, en termes de diplôme à passer pour entraîner à ce niveau-là ou pas du tout?
Ben oui, bon, pour faire simple, j'étais diplômé pour la R3. Là, il faudra que je repasse des formations pour me mettre à niveau pour la R2. Et pour l'instant, je suis couvert par un membre du club.
Pour chaque division, il faut passer des formations supplémentaires, c'est ça?
Ce qui est surprenant, oui, c'est comme ça. Après, c'est le club qui le vote en assemblée de la Ligue, donc tout le monde est d'accord avec ça. Après, sur mon cas particulier, c'est sûr que ça me ferait râler de devoir arrêter avec ce groupe-là si vraiment j'avais pas mes diplômes, quoi.
Et ça t'apporte quoi en plus ces formations-là chaque année?
Là, c'est un statut un peu particulier parce que là, ça serait vraiment pour presque travailler dans ce milieu-là. Moi, j'ai un job à côté, donc ça reste une passion, le foot, et c'est pas l'objectif premier. Maintenant, j'ai envie de continuer, donc déjà avec ce groupe-là, c'est sûr. Et après, à titre perso aussi, passer des diplômes, ça peut être que bénéfique.
Dernière question, juste avant la pub, et on reviendra juste après au début de saison de l'équipe de Pau et de l'Escar. Est-ce qu'il y a des contraintes financières pour le club aussi du fait de monter à ce niveau-là, des placements peut-être plus lointains, même s'il y a des équipes qui sont dans le coin forcément?
La poule que l'on a, on a 7 Girondins, donc on aura 7 bus. Nous avons 2 équipes du 64 et une des Landes. Donc en termes géographiques, on n'a pas eu trop de chance. Après, on privilégiera le critère sportif. On va espérer que la poule n'est pas trop relevée.
Merci Franck Charles, entraîneur de l'équipe de foot de Pau et de l'Escar, équipe qui évolue en Régional 2. On va se retrouver dans quelques instants sur Radio Inside pour la suite de l'émission Le Cop Inside. A tout de suite. Vous écoutez Le Cop Inside, l'émission sportive hebdomadaire, tous les lundis entre 19h et 20h30. On parle ce soir de football dans un premier temps avec Franck Charles, l'entraîneur de l'équipe senior de Pau et de l'Escar. On parlera de la féminine de Pau tout à l'heure. Ce sera l'objet de notre chronique Le Labo du Cop en présence de l'organisateur de la féminine de Pau, Denis Badi, qui nous a rejoint d'ailleurs dans les studios, qu'on va saluer d'ailleurs tout de suite. Hein. Bonsoir Denis, et merci d'être avec nous. On va lui faire passer le petit micro pour saluer tout le monde. Bonsoir Denis.
Bonsoir à tous.
En forme Denis?
Ça va très bien.
Très bien, impeccable. Donc on reparlera de la féminine dans quelques instants. On va revenir au foot avec une question déjà qui nous a été posée sur les réseaux sociaux. Mathilde, je te laisse poser la question à notre invité Franck Charles.
Alors c'est Ludo qui demande, est-ce qu'avec le groupe actuel, jusqu'à quel niveau est-ce que Pau il peut évoluer?
La Ligue 2?
La R2.
C'est vrai, c'est...
Non, réellement, ouais. la R2, parce que on n'aura pas cette année une année de surprise, je crois pas.
Est-ce que l'année dernière, si on t'avait posé la même question, tu aurais dit la R3?
J'aurais répondu la R3.
Ah, ouais.
Ah, donc on peut avoir espoir pour cette année.
Allez, vous l'entendez, on rentre dans le stade de Pau et de l'Escar. La petite ambiance derrière. Ouais. Le beau début de saison de Poët de l'Escar, on en parle maintenant. 3 matchs joués pour le club de Poët de l'Escar. Pas de défaite en championnat. En coupe, le bilan est un petit peu différent, on va y revenir après. Mais le début de championnat est juste exceptionnel, Franck.
Oui, ben en fait, on s'était donné l'objectif dans la préparation de gagner le premier chez nous. Puisque c'était une équipe promue également. Une équipe qui montait de R3, une équipe de Gironde. Suite à cette victoire, on s'est dit qu'un déplacement à Biarritz, on n'avait rien à perdre et on a joué comme à domicile. Ça a voulu sourire pour nous. Et le dernier, on fait une très bonne heure de jeu, des blessures pendant le match qui nous empêchent peut-être de réaliser la mini-série de 3 victoires. Quoi.
Est-ce qu'on peut dire que l'apprentissage de ce niveau a été rapide pour Poët ou est-ce que c'est un peu trop tôt encore pour
Non, c'est trop tôt parce qu'on ne peut pas savoir si le calendrier est peut-être très bon aussi dès le début. Et puis, je sais qu'il y a quand même des favoris de la poule qui sont bien au-dessus, oui.
En coupe, élimination après prolongation en Coupe de France, élimination au tir au but en Coupe de Nouvelle-Aquitaine, ça se joue à pas grand-chose à chaque fois. Ce week-end, une victoire en Coupe des Pyrénées, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce parcours en Coupe de début de saison?
En fait, je trouve que le tirage a été difficile, puisque je connaissais l'équipe d'Agetmont. On les avait joués en préparation l'année d'avant. Je savais que c'était une équipe sérieuse. J'avais pas tout le groupe.
Donc, achète-moi en Coupe de France, c'est ça?
En Coupe de France, je crois qu'on tape 5 fois les montants pour perdre en prolongation. Donc, le match est quand même correct, en sachant qu'on avait fait qu'un match amical sur le mois d'août. Donc, c'était un match positif qui mettait en train la saison. Ensuite, le second contre Jurançon, un derby. Très belle équipe de Jurançon aussi. On perd au pénalty dans un match équilibré. J'avais fait tourner un petit peu aussi le groupe, puisque je donne priorité au championnat. Et ce week-end, j'ai essayé des jeunes, ça s'est très bien passé. On était très bien accueillis à Cambon-les-Bains. Et victoire logique 3-0, match assez calme.
Donc si je comprends bien, l'objectif cette saison, c'est le maintien en R2. La coupe, c'est le bonus, c'est pour les jeunes, c'est pour faire tourner un petit peu.
La Pyrénée, on va essayer d'y faire un parcours quand même. On reste des compétiteurs, donc on lâchera pas. En sachant qu'il en reste qu'une en plus, donc celle-là, on la jouera. Mes priorités, bien entendu, au championnat. Ouais.
C'est quoi les forces de ton équipe?
L'entraîneur.
Juste après nous avoir dit que c'était les 20%.
Ils ont de l'amitié, ils ont une capacité à observer, à corriger. Ça, c'est sûr, puisque l'année dernière, nous avions eu une phase aller un peu compliquée. La phase retour, je crois qu'on a battu quasiment tout le monde. Donc je pense que c'est une forme d'intelligence aussi et de sérieux.
Et j'imagine qu'en tant que bon entraîneur, tu n'es pas forcément toujours satisfait. Est-ce qu'il y a aussi des points d'amélioration?
Je suis jamais satisfait. Ouais. Je suis très exigeant, avec eux. Surtout quand on monte de niveau. Donc il y a des vestiaires plus forts cette année que l'année dernière. Ils étaient sûrement un peu moins forts il y a 3 ans, mais je suis obligé d'avancer, quoi.
Pour revenir un petit peu sur le championnat, sur la partie purement réglementaire, combien de montées, combien de descentes dans la poule de R2?
Alors ça dépend toujours du national, je crois. Une montée sûre et peut-être deux, mais je sais que j'ai une équipe dans la poule qui a fini seconde R2 l'année dernière. Mm-hmm. Donc je suis pas sûr des deux montées.
D'accord. Et en descente, combien?
En descente, c'est deux. Et après, ça dépend du national, s'il y a des équipes d'Aquitaine qui descendent ou pas. Ça peut être trois.
C'est quoi le niveau global de cette poule? Tu connais un petit peu les autres équipes? Il y a l'Escar aussi, notamment, qui est juste à côté, qui va donner l'occasion de deux beaux derbies.
L'Escar est un des favoris, vu le recrutement. Ils ont recruté que des titulaires de ce niveau d'autres clubs. Donc je sais qu'ils avaient déjà un groupe de très grande qualité l'année dernière. Donc je les vois, moi, dans les trois premiers. Maintenant, je crois qu'on a des grosses équipes de Gironde. Des infos que j'ai, Talence notamment. La plupart des clubs, ça peut être aussi, il peut y avoir du changement en cours de saison, mais on est les premiers témoins de ça.
À quelle fréquence est-ce que les joueurs s'entraînent dans l'équipe 1 à Poët de l'Escar?
Ils font les deux. Ils font les deux par semaine. J'ai très peu d'absents.
D'accord. C'est mercredi, vendredi, c'est ça?
Mercredi, vendredi, oui.
Même quand le match est le samedi, comme c'est le cas ce week-end,
ouais. On peut décaler mardi, jeudi, ça peut.
D'accord.
Arriver, ouais.
Donc match samedi, justement, venons-en à ce match, un déplacement à Podensac pour affronter le FC des Graves, qui n'a pas encore gagné un seul match cette saison. Comment on l'aborde ce match-là quand on est le petit promu, entre guillemets, de Poët de l'Escar, qui a fait une belle entame de championnat, on peut le dire, et qui se déplace là-bas, chez une équipe qui va avoir certainement l'envie de démarrer sa saison?
Ben, je l'aborde sans regarder le classement, puisque le FC Grave et l'équipe, je parlais tout à l'heure, qui finit second l'année dernière avec une seule défaite, je crois, peut-être deux, qui a 16 victoires, qui monte pas en R1, qui a fait un beau recrutement. Je connais le club de Podensac pour l'avoir joué avec Orthez. Je crois qu'on sera pas favori sur ce match, ça me paraît clair.
Si on se projette un petit peu plus loin, c'est quoi les projets pour le club à court et à moyen terme, et des projets peut-être au niveau des infrastructures? J'imagine que si le club de Pau de l'Escar arrive à pérenniser sa place dans le on va dire au niveau régional, hein, c'est quand même le cas, il va falloir aussi se structurer pour.
Mais à court terme, déjà sur le sportif, notre recrutement était axé plus sur l'équipe réserve. On a des intentions sur l'équipe réserve, au moins de haut de tableau. Après, on verra en cours de saison s'ils peuvent réussir quelque chose. Le groupement jeune qui a été créé avec Egolong et l'Étoile Béarnaise, qui démarre très très bien dans toutes les catégories. Ça nous permettra aussi de voir sur le long terme. Et après, si on peut, oui, pérenniser sur de la Ligue, c'est l'objectif de l'équipe première, ça reste la vitrine. On voit que ça bouge bien autour de nous maintenant, et R2 ou R3, il faut que dans les 5 prochaines années on soit à ce niveau-là. Ouais.
Tu parlais de l'importance de la réserve juste avant. Quelles sont les relations que tu entretiens avec la réserve? Est-ce que tu as la possibilité d'aller voir certains de leurs matchs? Tu communiques, j'imagine, c'est un autre entraîneur qui entraîne la réserve. Comment ça fonctionne?
Ben en fait, je reste le responsable de la catégorie, donc ben, ce sont des joueurs qui font partie de mon effectif. Cette année, l'entraîneur, c'est Sébastien Melendez, qui a été mon adjoint pendant les 3 autres saisons, donc ça prouve bien qu'on veut mettre l'accès sur cette équipe. Peut-être que avec les montées successives, on les a laissés un peu de côté, alors que bon, c'est des garçons qu'on apprécie et qui ont de la qualité également. Donc on va essayer de faire quelque chose de bien sur l'ensemble du groupe senior cette année.
Comment est-ce qu'on peut suivre les actualités du club de foot de Pau et de l'Escar tout au long de la saison? Les réseaux sociaux notamment, le site web peut-être?
Alors on a un site qui est pas trop animé, mais il y a quand même des infos. Mais c'est surtout la page Facebook de Pau et de l'Escar qui est à jour avec les résumés de matchs, avec des photos, avec tout ce qui se passe chez nous.
Voilà, il y a les commentaires en direct aussi, je crois, pendant les rencontres,
voilà,
pour suivre l'évolution du score.
De tous nos matchs qui existent depuis un bon bout de temps déjà, qui est très animé et ouais. Suivi. Donc voilà.
Ça chambre un peu aussi de temps en temps dessus, ouais.
Beaucoup, le club chambre beaucoup, oui.
Ouais. Il y a un bon esprit, quoi, globalement.
Il y a un très bon esprit, que ça dure.
Bon, c'est super. Et donc pour samedi soir, il y a un déplacement, hein, c'est ça qui est organisé pour les supporters aussi?
Ouais, les supporters sont invités. On a créé un club de supporters cette année par le biais d'Éric Millois, le responsable de cette commission-là. On a beaucoup d'inscrits en peu de temps. Le bus sera plein, je pense, et on va proposer tous les déplacements aux supporters, en effet.
Franck, une dernière question, ou Marc, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Non, allez, une dernière question pour Franck, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? On aurait peut-être oublié un sujet à traiter?
Non, pas particulièrement.
Un petit bonjour à passer.
Un petit bonjour à mes amis du petit club de Bâche de Béarn qui ont eu pour la seconde fois une voiture brûlée sur leur terrain. Ah, je sais qu'ils bossent très très bien, les pauvres, et je pense fort à eux. Et après, que la malédiction de mes capitaines s'arrête, puisque Cédric Courdel s'est blessé récemment après Raph Solaire. Donc,
est-ce
voilà.
Qu'on peut parler d'une malédiction pour Raph ou d'une bénédiction?
Un mélange des deux, si tu veux. Mais... non, voilà.
Très bien.
Petit hommage à mes capitaines aussi.
Le message est passé. Merci beaucoup, Franck Charles, et bravo encore pour ce que tu fais et pour ce que fait l'ensemble du club de Pau et de l'Escar au foot. Et on vous souhaite de passer une très belle saison. Tu restes bien sûr avec nous pour la suite de cette émission. On aura l'occasion de te ressolliciter peut-être sur d'autres sujets un petit peu plus tard.
Écoute le Cop Inside et gagne tes places pour les événements sportifs de la région.
Des places à gagner ce soir dans le Cop Inside avec Mathilde qui vous explique comment ça se passe.
Alors, vous devez donc soit suivre la page Facebook ou Instagram du Cop Inside, les nouvelles pages.
Les
récemment...
deux, c'est encore mieux même.
Alors, les deux, ouais. Ça serait vraiment royal. Vous pouvez même venir sur le plateau de Radio Inside, vous serez les bienvenus. Donc, vous suivez la page Facebook, Instagram, le Cop Inside. Et puis, vous nous envoyez un petit message et puis on fera un tirage au sort à la fin de l'émission pour vous faire gagner 2 places pour aller voir la section contre Castres samedi à 18h au Hameau.
Super, merci Mathilde. Allez, on enchaîne.
Un coup de cœur. Wow. Un coup de gueule. Ooh. C'est le kiff et la gifle du Cop Inside.
Je suis sûr que vous l'attendez toutes et vous l'attendez tous, le retour du kiff et de la gifle dans le Cop Inside avec Olivier. Alors Olivier, c'est ton billet d'humeur, on le disait en introduction tout à l'heure, hein. C'est une des rares chroniques qu'on a gardées de l'ancienne formule, hein. Voilà, parce que c'est un domaine dans lequel tu excelles, peut-être le seul d'ailleurs, mais en tout cas ça nous fait plaisir que tu continues de l'animer. Quel est ton kiff ce soir, Olivier.
Alors, aujourd'hui, c'est la première de l'année, donc de la saison. Donc, du coup, on va faire un kiff et une gifle un peu spéciale. J'ai demandé, il y a une semaine ou un peu plus, à mes chroniqueurs, je veux prendre ta place, Xavier, mais je ne te l'ai pas encore dit. Aux chroniqueurs restants et à Xavier, quel était leur kiff et leur gifle de début de saison? C'est vrai que les saisons ont débuté depuis août, septembre. Des clubs béarnais et bigourdans, donc je voulais savoir, j'ai demandé à Mathilde par exemple. Mathilde, c'est quoi ton ma-kiff ou ton ma-gifle?
Alors moi, mon kiff ce soir, c'est le foot, dans la Bigorre, puisque c'est le club de Sous-Sigogne qui a gagné en Coupe de France, qui a éliminé Caser, qui est en R1, eux ils sont en R3. Ils ont gagné en prolongation 2-1, et donc ils se qualifient pour le 6e tour de la Coupe de France, donc c'est un joli parcours.
Ouais, ça valait le coup de le souligner. À Escapoué de l'Escar, tiens, une petite question pour Franck à nouveau. C'est quoi le plus beau parcours de Poué de l'Escar en Coupe de France?
Maximum 3e tour, je crois.
Il n'y a pas encore les maillots là, c'est ça? C'est le tour d'après? Ah oui. Peut-être pour une prochaine fois.
Une prochaine, oui, j'espère.
Ok. Donc, Sous-Sigogne, c'est le kiff de Mathilde.
C'est mon kiff général. J'adore la Coupe de France. Bon, je
ouais, on le sait
année,
que t'aimes bien, la Coupe de France.
C'est magique, ouais. C'est une compétition qui est extraordinaire. C'est pour ça que la médiocre Coupe de la Ligue a quitté
le paysage footballistique,
alors que la Coupe de France se maintient depuis les années 30, je crois, un truc du genre. Donc, c'est extraordinaire.
C'est la magie qui te plaît, toi.
Ah, moi, je suis en kiff total devant cette compétition. Voilà, c'était juste pour répondre un peu, parce que c'était pas très intéressant sinon. Donc, merci Mathilde. Alors, Marco, est-ce que tu as un Marco top ou un Marco flop?
J'ai un Marco top. C'est pour l'Open Terrega, en fait, qui a vu son niveau passer de ATP 90 à ATP 100. Et donc, j'espère que par rapport à cette augmentation de niveau, donc les 100, c'est le nombre de points qui est attribué au vainqueur du tournoi. Et j'espère que cette année, on aura des joueurs classés aux alentours de la 5e place mondiale. Donc ça aura lieu fin février.
C'est vrai qu'on Jérémy Chardier était un peu frustré de ne pas avoir du top 100 l'année dernière. Donc c'est vrai que cette augmentation de niveau, ça fait très plaisir.
Tu as tiré des bons joueurs. Donc c'est mon petit kiff du moment.
C'était bien, j'ai préféré à Mathilde. Et donc, du coup, toi, Xavier, est-ce que tu as pris ton Xavier ou est-ce que tu t'es fait Xachier?
Je me suis fait Xachier, on va dire, plutôt. Ouais, parce qu'il n'y a eu que des kiffs pour le moment. Moi, ça va être plutôt une gifle pareil sur quelque chose d'un petit peu plus global. Ça va être dans le milieu du rugby. Alors moi, ça, j'ai du mal à comprendre à chaque fois le fait qu'on joue une Coupe du Monde en même temps que les championnats. Ça, c'est, ou en tout cas que les championnats continuent pendant la Coupe du Monde. C'est surtout ça, parce que ça peut fausser quand même pas mal de choses. Hein. Il y a quand même beaucoup d'équipes, en tout cas dans je fais le parallèle évidemment avec la section paloise, hein, qui évolue dans le championnat de France de top 14. Mais il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont amputées de nombreux joueurs pendant cette Coupe du Monde. Alors, on va pas revenir sur les histoires climatiques de typhons et compagnie, mais bref, le fait de jouer pendant, je crois qu'il y a 4 ou 5 journées de championnat qui se déroulent, où il y a des journées aussi de Coupe d'Europe qui se déroulent pendant le mondial de rugby, c'est un petit peu dommage. L'année elle est longue, il y aurait peut-être moyen de faire autrement, même si on le sait, le rugby est un sport qui est très exigeant physiquement, c'est plus dur pour les organismes de récupérer, ça fait peut-être faire moins de matchs aux joueurs au final qui loupent leur match de championnat, mais voilà, c'est toujours un peu ralent parce que les classements peuvent être un petit peu faussés, les matchs peuvent être un peu faussés pendant cette période-là. Je sais pas ce que t'en penses, Marc.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et en plus, en Angleterre, par exemple, qui a un championnat qui fonctionne comme nous, mais ils jouent pas pendant la Coupe du Monde. Donc,
c'est logique, enfin.
Voilà, donc il y a un problème. Et tu disais 4-5. 4-5, c'est plus que ça, parce qu'on est déjà à la 7e journée. Donc, plus des matchs de Coupe d'Europe. Plus après, il y a le tournoi des 6 nations où les internationaux ne peuvent pas jouer non plus. C'est vrai que ça fausse le championnat. Et donc, bon, c'est dommage quand même d'en arriver là. Et je trouve que par moment, on a l'impression que le rugby est un peu traité de façon un peu amateur par les gens qui sont à la tête des instances du rugby.
J'ai posé une question qui va être un peu polémique pour Franck, qui ne sait pas pourquoi je lui pose une question.
Il va peut-être parler de toi.
Mais non, pas du tout. Dans 3 ans, c'est la Coupe du Monde au Qatar. Et ça peut se jouer en décembre. Comment tu as géré ton effectif à ce moment-là?
Ouais, dans 3 ans, le poids de l'escarpe peut être très très haut. Hein.
Par spectateur, ils vont pas participer autrement, je pense.
Toujours la modestie. Et moi, j'ai un kiff et une gifle aussi, très rapidement. La gifle, c'est sur l'élan béarnais. Je vais pas me faire que des amis. Je trouve que ce qui est bizarre, c'est que le début de saison, au point de vue comptable, est bien meilleur que l'année dernière. Là, ils sont à 2 victoires, 2 défaites. Cette année, ils sont à 3. L'année dernière, ils étaient à 3 défaites, 1 victoire. Sauf que l'année dernière, c'était mon kiff parce que j'avais trouvé l'équipe très forte et juste qu'ils avaient un meneur qui était pitoyable, je dirais le blessing game pour pas le dire. Et au moment de remplacement, ils étaient quand même deuxième pendant une bonne partie de la saison. Donc cette équipe avait une âme. Là, cette année, il y a beaucoup de très bonnes individualités, mais je trouve que l'équipe n'a pas encore en tout cas pour le moment, trouver dame ou un meneur ou quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe pas, qui se passait l'année dernière, qui se passe pas. Et je pense que beaucoup de joueurs ne se retrouvent pas forcément dans cet effectif. C'est-à-dire quelque chose.
Mais c'est pour te poser une question. Est-ce que c'est pas, on peut pas l'expliquer par le fait qu'il y a eu beaucoup de changements. Il y a très peu de joueurs qui sont restés l'année précédente.
Non, ça fait partie de ça. Il y a pas de meneur d'hommes, on va dire. Et en plus du fait qu'il n'y ait pas eu de, il y a eu beaucoup de changements et très peu de stabilité. Ce que voulait la direction, elle voulait beaucoup de stabilité et deux joueurs, McConnell et Shikoko, qui voulaient garder son parti quand même. Donc, dans des conditions un peu bizarres, on va dire, pour ne pas dire autre chose. Donc voilà, c'est dommage ce début de saison. Je pense que quand la magie va opérer, ça ira parce que les joueurs sont tous talentueux, je pense. Mais c'est vrai que là, pour le moment, c'est une équipe qui se cherche et ça fait un peu peur à voir, en tout cas sur le terrain. On a vu contre le Portel, c'était pas vraiment un match grandiose, loin s'en faut. Mais c'est vrai que les quatre premiers matchs étaient un peu, c'était dur quoi. Mais
Laurent Villa a dit qu'il fallait qu'ils se lâchent, peut-être qu'ils ont besoin d'attendre un peu.
Exactement.
Ils vont avoir l'occasion cette semaine de le faire parce qu'ils jouent quand même du côté de la EK Athènes qui a remporté la Basketball Champions League l'année dernière et du côté de l'ASVEL qui cartonne en ce début de saison. S'ils se lâchent pas dans des matchs comme ça, je sais pas quand est-ce qu'ils vont se lâcher.
C'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit là, c'est le moment ou jamais pour se lancer.
C'est contre l'ASVEL, de toute façon, on s'attend pas à voir l'Élan gagner contre l'ASVEL. Donc du coup, soit ils prennent une grosse branlée, soit ils s'accrochent et même s'ils gagnent pas, on verra si cette équipe a une âme, ou pour pas dire autre chose aussi,
vas-y, dis-le.
Pour des couilles, pour se mettre sur le terrain et pour aller essayer d'accrocher cette équipe de l'ASVEL qui écrase tout, quoi. Voilà. Et un kiff, et c'est pour aussi rebondir sur notre invité de la féminine, c'était pour faire un gros coup de chapeau parce que pendant l'été, il y a eu énormément de choses qui ont été organisées, notamment des courses, des triathlons, etc. Et je voulais juste faire un gros kiff sur toutes les équipes de bénévoles. Je sais pas où est-ce qu'ils voulaient trouver, mais à chaque fois, il y a eu toute une équipe de... Combien il y avait de bénévoles sur la féminine ?
Denis Badi, donc, organisateur de la féminine.
Il y avait 100 bénévoles dimanche matin.
Voilà, 100 bénévoles. Je trouve ça juste extraordinaire d'avoir toujours... tous ces bénévoles qui viennent prendre de leur temps un dimanche matin en plus sous la chaleur, c'est pas eux qui participent, ils courent pas, etc. Mais ils sont plus exceptionnels encore que les coureurs, je trouve. Et voilà, je voulais juste les féliciter, tous ceux qui étaient là. J'ai fait un triathlon, j'aime bien me répéter, un triathlon à Bière, c'était la première fois qu'ils le faisaient et il y avait des bénévoles, c'était juste tout au long du trajet, c'était juste extraordinaire quoi. J'ai trouvé ça vraiment très très bien. Donc voilà, je voulais féliciter tous ces bénévoles là, c'est mon kiff de début de saison et de l'été surtout, c'était tous ces bénévoles qui prenaient de leur propre temps pour faire ça. Voilà.
Merci Olivier, c'était donc le kiff et la gifle.
Rejoignez le Cop Inside sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, le Cop Inside. Le Cop Inside.
Le Cop Inside sur les réseaux sociaux, c'est Mathilde qui est derrière tout ça. N'hésitez pas, qu'est-ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux? On peut commenter, on peut partager, nous envoyer des infos, c'est ça Mathilde?
C'est ça, mais vous pouvez commenter les résultats, nous envoyer vos petits commentaires, les résultats de votre club aussi, hein, pourquoi pas, on peut les partager, il n'y a pas de souci. Et puis vous pouvez participer au jeu pendant la saison, pendant l'émission, on vous fera gagner des places pour les différents matchs de la saison. Et donc ça se passe sur la page Facebook et Instagram, le Cop Inside.
Merci Mathilde. Allez, on va marquer une courte pause sur Radio Inside. On se retrouve dans 5 petites minutes pour la suite du Cop Inside.
Rejoignez le Cop Inside sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, le Cop Inside. Le Cop Inside.
Le Cop Inside est de retour pour la dernière ligne droite de cette émission. Nous avons parlé essentiellement de football dans la première partie avec Franck Charles, l'entraîneur de l'équipe de Pouilly-de-l'Escar. On va parler maintenant de course à pied, de marche aussi un petit peu et de tout un tas d'animations qui ont eu lieu ce dimanche matin. C'était la Féminine de Pau. Peut-être que vous qui nous écoutez, vous y avez participé. Nous accueillons ce soir l'organisateur de cette course, qui est président de l'association organisatrice de la Féminine de Pau, Denis Badi. Rebonsoir Denis.
Bonsoir.
Petite question très simple pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et auditrices, pour ceux qui ne te connaîtraient pas?
Bon, avec la voix un peu éraillée, puisque hier il y avait beaucoup de son toute la matinée, Denis Badi, je suis le président du club universitaire Palois Omnisport, qui est une association sportive qui a plus de 70 ans sur Pau, et qui est un club omnisport. Nous avons une grosse section athlétisme, montagne, stretching, yoga et tout ce qui est sport santé.
D'accord. Et quel est ton rôle, toi, exactement, dans cet événement? C'est de coordonner un petit peu le tout? Tu es celui qui travaille un petit peu dans l'ombre, c'est ça?
Voilà, je fais partie des quelques bénévoles qui travaillent pendant plusieurs mois à tout préparer pour que les 100 bénévoles qui sont présents le dimanche matin veillent à la bonne organisation de cette compétition.
Olivier, une petite question.
La féminine, ça a quel âge? Ça fait combien de temps que ça existe?
Alors, c'était hier la 16e édition et c'est la 8e année puisque nous sommes la seule ville en France à faire deux manifestations pour les femmes comme ça. On en fait une au printemps et une en automne.
Alors, on y revient dans quelques instants. Juste pour terminer la présentation, Denis, toi, à titre personnel, quel sport est-ce que tu pratiques, si tu en pratiques?
Alors, je pratique encore la course à pied et j'ai été international d'athlétisme dans mes jeunes années au CUP. Voilà, avec André Lavie, je faisais du 800 mètres.
Très bien.
Un événement, un fait marquant. Le Labo du COP décortique l'actualité sportive dans les Pyrénées.
Voilà, le Labo du COP, le petit jingle qui va bien, c'est mieux avant le début de la chronique, mais c'est pas grave, c'est pour le faire passer aussi. On décortique l'événement de ce week-end, la féminine de Pau, donc avec Denis Badi, qui vient de se présenter à vous toutes et à vous tous. Donc, depuis quand cet événement existe, Olivier a posé la question. Et est-ce que tu peux nous dire, en fait, d'où vient cette idée-là, au départ?
Alors, si on remonte à la genèse, c'est Franck Lestage, un ancien cupiste, on appelle les adhérents du CUP les cupistes, qui a, en partant sur Bordeaux, après a été aux Jeux Olympiques de Barcelone en longueur, a inventé la bordelaise. Il y a très longtemps, il a lancé une course sur Bordeaux, qui a tout de suite pris de l'ampleur, et quand il revenait sur Pau, une année, il me dit, Denis, il faut qu'on lance la paloise. Donc je lui dis, moi, nous, on peut être les prestataires techniques de la paloise. Donc on a monté avec lui la paloise pendant quelques années, qui était une des premières courses féminines. Après, pour des raisons de communication, nous, on est parti sur la féminine de Pau. Et donc, c'est à partir de 2012 que nous sommes devenus indépendants en proposant deux par an.
Et il y avait combien de participantes, du coup, la première année et maintenant la dernière, du coup?
Alors, si on regarde la première paloise, c'est-à-dire la première course féminine ouverte aux femmes paloises, il y avait 120 filles. Sur la première féminine, on avait déjà l'ancienneté de la paloise. La première féminine, on a commencé à 800, puis 1200, puis on est tout de suite passé à 1400, 2000, voilà, et arrivé à maintenant à stabiliser, on est toujours entre 2400, 2600, 2800 femmes.
C'est aussi un événement avec une connotation solidaire, Denis. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Oui, tout à fait. Dès le début, on a voulu connaître un peu les aspirations des filles. Donc, très régulièrement, on fait des sondages internet pour les filles qui ont participé à cette féminine ou aux précédentes. Pour vous donner une idée, le dernier sondage de l'année dernière, on a eu 1600 réponses. Donc, dans les sondages, on leur demande par exemple la couleur du t-shirt de l'année suivante, mais aussi pourquoi est-ce qu'elles viennent. On a fait des sondages aussi pour savoir quels étaient un peu leur niveau de pratique. Et on s'aperçoit depuis 2012 que les filles viennent à la féminine pour deux raisons principales. La convivialité entre copines, entre collègues, entre sœurs et surtout la solidarité. Et parce que nous, quand on a créé la féminine de Pau, on voulait venir en aide aussi sur le plan local à des associations d'aide soit aux femmes, soit aux enfants sur le bassin de vie que nous sommes, c'est-à-dire le Béarn. Et donc régulièrement, en avril, on aide une association qui lutte contre le cancer de l'intestin ou la maladie de Crohn, c'est plus connu sous le nom de la maladie de Crohn, et systématiquement, en octobre et novembre, lorsqu'on est toujours ou novembre ou octobre, on aide une association luttant contre le cancer du sein, mais les fonds vont toujours sur des structures béarnaises. Là, on a participé à l'achat d'un mammotum qui va équiper l'hôpital de Pau très prochainement.
Un mammotum qui est, pour ceux qui ne connaîtraient pas, dont moi.
Alors le mammotum, c'est un appareil qui permet de faire des incisions et des recherches de tumeurs sur les seins des femmes, mais vraiment en faisant des incisions très très minimes. Donc ça permet d'éviter une lourde hospitalisation. Et ça, c'est l'association Convergence Hommes Citoyens d'Ivurieta qui a réuni des fonds et il leur manquait un peu d'argent pour arriver à la concrétisation de ce mammotum et il va être acheté très prochainement.
Alors on connaît toutes et tous autour de nous quelqu'un qui a participé à la féminine. C'est devenu vraiment un rendez-vous incontournable au printemps et à l'automne maintenant dans la région paloise.
Oui, c'est ce qui nous plaît. Tout à l'heure, ton collègue nous parlait des bénévoles. Nous, on n'a aucun souci pour avoir les 100 bénévoles pour la féminine. Parce que le jour de la féminine, c'est que des sourires. Les filles sont pas comme les gars quand ils courent. Souvent, les hommes, c'est d'abord le chrono. Alors, elles deviennent de plus en plus GPS accro. Elles nous disent, non, votre parcours...
Il y a du débat sur la longueur, c'est ça.
Alors,
ouais.
Nous, on précise, nous, on le fait sans jamais couper. et on le fait au milieu de la route puisqu'on est avec un vélo quand on le fait. Donc effectivement, hier, il faisait 5 km 950. En coupant, on peut arriver à 5 km 600. Mais par rapport aux garçons, elles ont une autre approche de la compétition. Elles ne sont pas à la seconde près, même si elles veulent battre leur record généralement. Et donc, au niveau des bénévoles, c'est très simple. Il y a énormément de spectateurs. Hein, on parle de 4-5 000 spectateurs hier. Des anciens qui viennent, les hommes qui gardent les enfants. Et aussi, on a toujours 3 courses enfants. Donc au début de la féminine, à 10h, on fait courir les 6, 7 ans, 8, 9 ans et 10, 11 ans. Et hier, par exemple, on avait 512 gamins.
C'est énorme.
Qui ont couru. Voilà. C'est énorme sur la place de Pau. Mmh.
La difficulté à chaque fois, j'imagine, c'est d'arriver à se renouveler, d'arriver à trouver quelque chose d'un petit peu différent de l'édition précédente. On change un peu le parcours, on rajoute des animations. C'est ça le quotidien d'un organisateur d'une telle course?
Alors pour nous, organisateurs, on repart à chaque fois d'une feuille blanche parce que on change souvent le lieu de départ et arrivée. L'année dernière, on les a amenés au Bois de Pau et sur le domaine de Cers rénové. C'était un pari, on a réussi. Cette année, on fait un départ Place de Verdun sur un parcours qui était plus difficile. Hein, parce que
plus de dénivelé, c'est ça?
Oui, beaucoup plus de dénivelé. Il fallait remonter du Hédas et elles sont toujours là. Donc en fait, elles ont l'impression que rien ne change, mais pour nous, c'est toujours une remise à zéro à chaque édition.
Marc, une question pour Denis Badi.
Par rapport, enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne, parce que la ville est bloquée pendant une matinée. Est-ce que ça a un coût pour l'association de bloquer les rues de Pau?
Alors, c'est une négociation âpre en amont, mais on a une grande chance, c'est que les services de la ville de Pau nous soutiennent et que Idélis nous soutient énormément. Parce qu'on sait qu'on gêne. On gêne le transport par bus le jour où on fait la manifestation. Donc depuis l'année dernière, on a innové. Sur avril, on sera toujours sur un samedi soir à 19h. Donc on ne gêne pas tout à fait le même public qu'un dimanche matin. Et sur octobre, on sera toujours sur un dimanche à 11h. Mais c'est vrai que on est aidé techniquement par la ville de Pau. La police municipale nous encadre aussi. Et c'est vrai qu'il faut tirer un coup de chapeau à Idélis parce que eux, on les gêne. Après, il n'y a pas d'autres gênes. On n'a que des retours positifs parce que c'est vrai qu'on anime la ville. Tous les restaurants sont pleins à midi ou à 13h ou à 14h le jour de la féminine de Pau parce que les filles nous le disent, elles vont manger entre collègues, entre copines, entre amis, entre familles. Et donc, grosso modo, on sait que ça fait du bien à la ville et ça fait du bien au Béarn.
Donc on le disait, un nouveau parcours qui débutait cette année au niveau de la place de Verdun. Des conditions climatiques, il a fait chaud hier matin.
Tout à fait. Alors depuis des années, dans le règlement intérieur, si on le lit à fond, on voit que en cas de forte chaleur, on se réserve la possibilité de mettre un ravitaillement à mi-course. Donc il y avait beaucoup de raillerie de nos copains qui nous disaient « Jamais vous mettrez un ravitaillement à 3 km sur une course de 6 km, en plus avec des marcheuses. » Eh bien, le règlement intérieur, il a servi cette année, puisqu'on avait une température ressentie prévue à 30. Hein, depuis le début de la semaine, on était en contact avec des services météo un peu précis pour être sûr de la température. Il faut savoir qu'à midi, hier, c'était 30 ressentis. Et donc, on a choisi vendredi de mettre un ravitaillement aux 3 km. Pour vous donner une idée, la moitié des concurrentes se sont ravitaillées.
Donc, ça valait le coup de le faire quand même.
Ça valait le coup de le faire.
Près de 2300 participantes, si on regroupe la marche et la course, 500 enfants, tu le disais tout à l'heure, c'est une véritable réussite.
Oui, voilà, donc on a 2300 arrivantes, c'est-à-dire que les résultats que vous avez sur la presse, ce sont vraiment les filles qui ont passé avec leur puce électronique sous l'arche d'arrivée. On a des filles qui ne mettent pas finalement la puce et on a toujours...
Des désistements.
Donc nous, on compte toujours le nombre d'inscrites. Et hier, on avait 2629 inscrites.
C'est pas mal. Qu'est-ce que les participantes apprécient le plus? Tu parlais tout à l'heure d'idée de se retrouver aussi entre amis, en famille, entre collègues, mais c'est le côté convivial aussi de cette course qui est apprécié par les participantes.
Oui, le côté convivial, le côté solidaire et le côté sportif. Hein. On peut voir que grâce à la féminine, depuis des années, les pelotons des autres courses à pied se sont féminisés. Hein. Il y a de plus en plus de filles sur les 10 bornes, il y a de plus en plus de filles sur les semi-marathons. Il suffit de voir autour du Béarn, le nombre de filles qui font le Tour du Béarn, le nombre de filles qui font des équidènes, voire des triathlons. Donc ça, c'est notre réussite, on en est très heureux. Parce que nous, notre objectif, c'est que les filles viennent d'abord marcher se remettre un peu au sport, voir que c'est possible de marcher, courir 3 km, 6 km, et après aller sur les autres courses. Donc nous, on est très satisfaits de ça. Il y a 15 ans, Jacques Barouillet, qui est maintenant disparu, qui était journaliste, avait fait une étude. 10% des pelotons étaient féminins seulement. Maintenant, on arrive facilement à 25-30%.
Marc, une question.
Du coup, tu as parlé qu'il y a de plus en plus de femmes qui font de la course à pied. Est-ce qu'il a envisagé d'augmenter un petit peu la longueur du parcours ou de rester sur ces 6 km? C'est parfait pour vous ou...
Non, on reste sur 6 km. On a l'expérience de Bordeaux. La Bordelaise, c'était 8 km. Et très vite, ils ont créé la petite Bordelaise à 4 km. Donc nous, on ne créera pas la petite féminine. Mais 6 km, c'est raisonnable. On a la route pour nous pendant 1h30, ça ne gêne pas non plus la ville trop longtemps, et c'est vraiment accessible. Plus court, il y a moins d'intérêt pour reprendre le sport.
Sur le plan purement sportif, la victoire finale est revenue à Hélène Coll en 21 minutes et 47 secondes. Belle performance tout de même. C'est une coureuse qui est connue ou pas du tout dans la région?
Alors c'est une kinésithérapeute qui vient d'arriver dans la région, donc elle a gagné sa première féminine, je crois qu'elle est là depuis 15 jours. Ce qu'on voit dans la féminine de Pau, c'est que il faut savoir que les premières ou les dernières ont la même chance de gagner au tirage au sort. Il n'y a rien de plus pour la première que la dernière, elle a le même t-shirt rose, et pourtant les meilleures viennent toujours. Bon, il faut savoir que Jocelyne Poli était dans le peloton hier, elle a couru avec une amie. Donc incognito un peu, et elle nous explique, les filles, que c'est la seule course durant laquelle il n'y a personne devant elle, et quand il y a la police municipale qui ouvre par exemple avec des motos ou nos signaleurs qui ouvrent en vélo, et bien c'est la seule course de l'année qu'elles font en ayant toute la rue dégagée et les spectateurs rien que pour elles. Et c'est aussi pour ça qu'elles viennent, puisque dans les pelotons mixtes, ben, elles sont toujours au milieu de garçons de part et d'autre.
Donc une très belle réussite pour la féminine de Pau qui se déroulait hier dans les rues paloises. Est-ce que la date de la prochaine édition est déjà connue pour le début d'année prochaine?
Alors, on sait qu'on sera sur la mi-octobre pour la féminine d'automne. Là, il faut qu'on voit pour la féminine de printemps, si on est sur le mois d'avril, sur le mois de mai, en fonction des ponts, en fonction des vacances, en fonction de la fête foraine, en fonction du Grand Prix de Pau.
Ça voilà. Fait beaucoup d'éléments à prendre en compte.
On veut s'insérer là-dedans, mais on sera sur un samedi soir, sans doute mi-avril ou fin avril.
Et combien de temps à l'avance est-ce qu'on s'y prend pour organiser une édition? Là, déjà, celle-ci terminée, on pense déjà à la prochaine.
On a commencé à préparer celle d'avril hier après-midi avec les bénévoles. Dans les grandes lignes, on fait toujours des débriefs. Et après, ça s'accélère à partir du mois de janvier. Voilà, pour arriver, on est 5 à travailler pendant quelques mois, 20 pendant les 3 premières semaines et 100 le dernier jour.
Comment se décide le tracé? Tu disais tout à l'heure, tu remerciais aussi Délice. Est-ce que vous les sollicitez aussi à ce moment-là, où vous leur faites une proposition de tracé? Comment ça fonctionne?
Oui, c'est la complexité à laquelle on est confronté maintenant, et donc on a pris l'initiative grâce à la ville de Pau. On va maintenant mettre Idélis et la police municipale dès le début dans la boucle, parce que nous, la contrainte qu'on ne veut pas éliminer, c'est que les filles tiennent absolument à courir au centre-ville. Donc il faudra toujours qu'on passe par le quartier du Château, le boulevard des Pyrénées. C'est une contrainte pour nous, c'est une opportunité. Donc on prendra toujours la tâche d'Idélis et de la police municipale dans l'avenir.
Comment est-ce qu'on suit les actualités de la féminine de Pau? Même question que j'avais posée tout à l'heure à Franck Charles pour le club de Pau et de l'Escar. On peut retrouver tout ça sur les réseaux sociaux, le site,
oui,
le site web.
Oui, voilà, on a une page Facebook, je crois qu'on a quasiment 4000 personnes qui nous suivent.
Pas mal.
On a aussi un site internet sur lequel on va beaucoup en amont pour s'inscrire, les résultats. Vous pouvez aussi aller voir des milliers de photos qui sont prises par Éric Traversier sur son site. Et puis nos collègues de la presse écrite qui se font aussi l'écho des résultats.
Ouais, je reviens sur les photos, c'est toujours sympa pour les coureurs, de se retrouver après en photo. Donc ces photos prises par Traversier en plein effort, c'est toujours agréable. Quelque chose à ajouter peut-être, Denis, ou est-ce qu'on a fait le tour? Un dernier mot pour clôturer cette interview?
On est très heureux, nous on essaie de continuer à innover, donc on continuera. On espère par contre en 2020 faire le même parcours en avril et en octobre, ce qui permettra aussi aux filles de se jauger, voilà, pour être un peu plus tranquille.
Merci beaucoup Denis Badi, et bravo encore pour l'organisation de ce bel événement, et longue vie à la féminine de Pau, si je puis conclure ainsi.
Merci à Inside.
Le quiz du COP.
À Allez, juste avant le prochain écran publicitaire, on passe au quiz du COP, l'une des nouvelles chroniques de cette saison. Et c'est Marc Logini qui nous a préparé le quiz du COP. Je vais le laisser d'ailleurs vous expliquer en quoi ça consiste et qu'est-ce qu'on peut gagner, comment on joue. Hein,
qu'est-ce qu'on peut gagner?
De l'honneur.
La notoriété déjà, ça sera pas mal. Et pour ce quiz, donc, je ferai un quiz sur l'actualité sportive, plutôt de la semaine précédente en particulier. Je ferai comme ça, sauf cette fois-ci, j'ai fait un petit quiz pour faire un petit kiff.
Sur la semaine prochaine, c'est ça?
Sur la semaine prochaine. Non, un petit kiff sur une équipe, on en a pas parlé tout à l'heure, qui fait un super début de saison. Ça parle de foot. Le Pau FC, quand même, qui fait un début de saison assez extraordinaire, puisqu'ils sont premiers ex aequo après 10 matchs, avec 19 points, avec Dunkerque. Et donc, on se prend à rêver d'une possible montée en Ligue 2. C'est jamais, hein, on peut rêver, mais ça serait super. Et donc, pour avoir vu quelques matchs, quand même, on se fait plutôt plaisir. Et donc, je vais faire un petit quiz, un petit jeu sous forme d'enchères pour voir si vous avez un petit peu suivi le début de saison de nos jaunes et bleus. Combien de joueurs du Pau FC vous pouvez me citer? Donc, Mathilde, tu peux en citer combien, toi? Ah ouais, tout ça.
Tu peux démarrer à 1, alors
ouais,
je vais faire
si tu veux. Hein.
Allez, 2.
Olivier?
Xavier joue aussi?
Ouais, Xavier. Ah ouais.
On peut faire jouer Franck peut-être aussi, qui suit un petit peu le Pau FC, je sais pas s'il connaît. Non, il veut pas. Allez, tant pis.
Bon, tu pourras souffler, s'il te plaît.
Alors combien? 2 ici.
3.
7. Bon, je les enchère, moi.
Quelqu'un dit mieux dans la salle?
Bah non, je dis pas mieux que 7, non.
Tu lâches un 8, Mathilde, je te laisse. Hein. Je pense que ce sera le meilleur moment radiophonique de la journée. 8.
9. Ah, non. Est-ce que tu vas t'arrêter là?
Non, je te laisse.
9?
Ouais.
Allez, c'est parti.
Il faut aussi les prénoms ou juste les noms,
allez,
ça suffira?
Allez, les noms, ça allez. Ira.
Alexis Gendouze, Davon Bansé, Paul Maisonneuve, Yankou Bajarju.
C'est pas vraiment un joueur, ça.
Qu'est-ce qu'on a encore? Quentin Daubin. J'oublie en défense centrale. Louis Burry. On va avoir aussi. D'ailleurs, il est plutôt latéral, Louis Burry.
Que deux.
Il m'en manque que deux. Hein, je suis pas loin. Hein.
Oui, cherche sur internet.
Non, je cherche même pas. Je
un
cherche
buteur,
même pas.
Un buteur d'hier.
Un buteur. Il y a Jarju qui a marqué ce week-end en Coupe de France.
Il y en a un qui a mis un doublé.
Et qui a mis un doublé.
Il est fort.
Ouais.
C'est un jeu de mots là que je te fais.
Il est fort. Ben, je l'ai pas.
Alain Rock.
Je les ai en plus, mais c'est le stress. Là, je suis sous pression, c'est terrible. Il en manque deux. Tu les as, Olivier, peut-être les deux derniers?
Oui, largement.
Vas-y.
Non, mais je te le dirai pas. Il y a Namé, Mohamed.
Namé, oui, voilà, c'est ça.
Peut-être le meilleur joueur de l'effectif.
Ouais.
Pour moi.
Sabali.
Sabali, oui, aussi.
Ça comme une victoire de ma part.
Ouais, c'est bien. Je me suis un peu enflammé.
Lamine Gay, il y avait Bayard qui a marqué.
Ah oui,
Fort Bayard, tu vois.
Ouais.
Oh là là,
ah c'était ça. Oh là 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 là.
Après Marco, c'est le dernier mec qui a connu.
Je sais pas si on peut appeler ça un indice. Hein.
Voilà, ça méritait des huées pour Marco, pas mieux.
Je les prends. Donc voilà.
Et pour moi aussi d'ailleurs, puisque je n'ai pas trouvé les neuf.
T'as pas trouvé,
neuf,
donc
hein.
En fait, il y a ça, Scotty
Sadzout aussi, ouais, ça me revient maintenant.
Tu nous perds un coup lors d'une.
Vous perds un coup à boire, pas de souci.
On peut faire ça.
Ludo aurait pu gagner. Il m'a dit qu'il avait 13 joueurs.
Ouais. Il y a 13 enfants à lui qui joue, c'est pour ça. C'est plus facile.
Bon, je me suis un petit peu enflammé,
mais
c'est dommage.
Mal,
mais
c'est
je suis
donc
sûr
voilà,
que je les aurais retrouvés à la fin de l'émission.
C'était surtout pour mon petit coup de cœur de début de saison, quand même, parce que le Pau FC quand même nous régale tous les week-ends. Et encore avec une victoire hier contre Marmande en Coupe de France. Donc, ils sont qualifiés pour le 6e tour.
Merci Marc pour ce petit clin d'œil au Pau FC et pour le quiz du COP que l'on retrouvera bien sûr tous les lundis dans le COP Inside sur Radio Inside, bien évidemment, à Pau et à Tarbes. On va marquer une courte pause justement et on va se retrouver dans quelques instants pour la suite et la fin de cette émission. À tout de suite.
Écoute le COP Inside et gagne tes places pour les événements sportifs de la région.
Le COP Inside en direct jusqu'à 20h30 tous les lundis, donc sur l'antenne de Radio Inside 99.8 à Pau, 88.7 à Tarbes. On va tout de suite enchaîner avec une nouvelle chronique qui s'appelle les échos du COP. Mathilde, que sont les échos du COP?
Les échos du COP, c'est donc nos auditeurs qui peuvent commenter l'actualité sportive de la semaine. Alors ça peut être sur les réseaux sociaux, nous envoyer des petits commentaires, des résultats, des questions. Et des réactions qu'on va recueillir au bord du terrain tout au long de l'année, avec Olivier qui est en très grande forme ce soir et qui donc on a eu plusieurs commentaires, donc on va en parler sur la féminine, mais aussi sur le match du TFC qui s'est joué jeudi soir au Hameau, un match amical où il y a eu un petit incident pendant le match. Donc on a une réaction de Paul qui était, je crois, au match jeudi soir.
Match pas terrible. C'était l'équipe 2 quasiment de chaque équipe, donc surtout avec une petite coupure d'électricité au bout de la 70e. Donc c'était pas un grand match de football. Surtout qu'on est resté, au final ça a pas redémarré. Donc bon, pas un match à réitérer.
Voilà, Paul qui était donc plutôt déçu hein, de ce qu'on vient d'écouter, de cette bon, évidemment de la coupure d'électricité, mais apparemment le match n'était pas non plus folichon. Franck, t'as suivi de près ou de loin ce match, Franck Charles, entraîneur de Pouilly de l'Escar?
Non, j'ai pas pu y aller, j'ai hésité à y aller, j'ai pas eu le temps. Et j'ai lu l'article le lendemain par rapport à l'éclairage notamment.
Bon, il vaut mieux que ça arrive pendant un match amical que pendant un match officiel de championnat pour le POSC. Hein.
Il faut savoir quand même que ça a un peu jasé autour du terrain et que certains supporters se demandaient étaient inquiets de savoir si Monsieur Bayrou continuait à payer les factures d'électricité ou pas. Donc voilà, c'était le petit côté rigolo, tout le monde se demandait un peu ce qui se passait.
Marc ?
On va noter que c'était une soirée exceptionnelle quand même, pour que le TFC marque deux buts en 70 minutes quand même.
Enfin, je tenais ouais, à mais noter il leur restait quand même deux minutes pour se faire rattraper.
Oui, non, mais marquer deux buts, c'est gagner ou perdre à la limite ça. Mais ouais. Marquer deux buts en 70 minutes, c'est...
Qui sont les buteurs ?
Léa Isika, je crois,
et un défenseur. Ici Matmera.
Ouais. Ils ont fait jouer les remplaçants aussi.
Non, ils sont... Léa Isika, il est plutôt remplaçant, on va dire ça.
Ok, Mathilde, d'autres réactions, peut-être sur d'autres sujets.
Et donc, on a eu des réactions aussi sur la féminine de Pau. On avait lancé un petit appel à témoins sur les réseaux sociaux pour savoir un petit peu comment ça s'était passé. Alors, il y a celles qui couraient la féminine pour la première fois, et puis il y a celles qui sont des habituées. On a Anaïs qui nous dit que voilà, il s'agit de sa troisième participation et que c'était toujours un très bon moment de partage entre amis, et puis en plus pour la bonne cause. Puis on a aussi sur Instagram Jen qui nous dit que c'était encore une super ambiance, une super course et un chouette moment. Et puis il y a Laura qui était sur sa première participation à la féminine et qui est pas du tout quelqu'un qui court et qui nous dit que c'était un peu dur pour elle, que ça l'a permis de se dépasser et qu'elle était du coup super fière d'avoir été au bout. Donc voilà, c'est des commentaires qui sont récurrents sur la féminine, toujours une bonne ambiance. Et puis bon, il y en a eu pas mal de commentaires sur le fait qu'il faisait chaud et que du coup c'était une édition un peu plus dure que les autres. Mais
commentaires positifs quand même, globalement.
Toujours dans la bonne ambiance, c'est un super événement sur Pau.
Super. D'autres réactions ? D'autres sujets ?
Je n'ai pas d'autres réactions.
C'est déjà très bien, hein. C'est déjà très bien. On se retrouve.
Mais j'invite les auditeurs à nous envoyer leurs réactions, à nous envoyer des résultats, s'ils vont voir des matchs, leur avis sur les matchs. Et puis on pourra en parler, en débattre avec les chroniqueurs la semaine prochaine, lundi prochain, entre 19h et 20h30.
Voilà, vous qui nous écoutez, il vous reste plus que quelques minutes pour vous inscrire au tirage au sort pour tenter de remporter des places pour aller voir et encourager la section paloise qui joue ce samedi à 18h au Stade du Hameau face à Castres. La section paloise un petit peu en mode rédemption hein, sur ce match après trois défaites consécutives. On va en reparler dans quelques instants, mais n'hésitez pas, ça se passe sur les réseaux sociaux. Mathilde, tu rappelles très rapidement comment ça fonctionne.
Alors, il faut suivre la page Facebook et Instagram de l'émission, le Cop Inside, et puis envoyez-nous un message pour nous signaler votre participation au jeu. On fera un tirage au sort avant 20h30 pour faire gagner deux places pour aller voir la section donc samedi soir à 18h au Hameau.
Merci Mathilde.
Le chiffre du COP.
Nouvelle chronique, le chiffre du COP. Le chiffre du COP, je vais vous solliciter un petit peu tous les quatre qui êtes autour de la table. Olivier, Marc, Mathilde et notre invité Franck Charles. Je vais vous donner un chiffre correspondant à quelque chose qui s'est passé dans l'actualité sportive béarnaise ou bigourdane. Et vous allez essayer de me dire de quoi il s'agit, puis après on va en discuter un petit peu, et si vous trouvez pas, je vais vous donner quand même quelques petites indications. Ce chiffre, c'est 11.
C'est le nombre de doigts de pied qui te reste.
Non, c'est pas ça. C'est de l'actualité.
Le nombre de points que la section paloise a marqué depuis le début de la saison.
Non, c'est 13.
Non, c'est pas ça. Mais ça chauffe.
C'est un nombre de joueurs ?
C'est sur la section ?
C'est du rugby, ouais.
C'est sur la section...
11 blessés ?
Non.
C'est pas 11 fautes.
T'étais vraiment pas loin, Mathilde.
C'est pas 11 fautes, je crois qu'on en fait 17.
Non, pas 11 essais.
Non.
11 balles perdues en touche. Est-ce que c'est un chiffre qui est positif?
Non, c'est plutôt négatif. La connotation de ce chiffre est plutôt négative.
11 cartons jaunes.
Non.
C'est des points?
Ouais, c'est ça.
11 points de moyenne?
Non. C'est vraiment pas loin. Réfléchissez. Il faut pas aller chercher très très loin.
Hors bonus?
Non. Mathilde l'a quasiment dit tout à l'heure, 11 points marqués.
À domicile, à l'extérieur, non, à domicile.
Bon, je vous aider, hein. On se peut marquer sur les deux derniers matchs.
Ah.
Voilà, sur les deux derniers matchs. 8
ah oui, pardon.
Et 3, c'est quand même...
8 plus 3 fait 11.
Ouais, c'est ça, oui. J'allais pas vous le donner de manière trop facile. Hein. 8 points marqués à Lyon ce week-end, 3 la semaine dernière à domicile face au Racing, Troisième défaite d'affilée pour la section paloise. C'est compliqué ce début de saison, Marc.
Oui, c'était compliqué jusqu'à il y a trois matchs.
Oui, c'est ça.
Même deux matchs, en fait, parce qu'ils font un match plutôt correct contre le Stade Toulousain.
Et c'est ce match contre le Racing là qui fait très mal.
Là, c'est catastrophique. Ah, ouais. Je sais pas. Ils ont éteint la lumière, un peu comme au stade du Pau FC. Ils ne répondaient plus. Et c'est vrai que c'est cette défaite là qui fait vraiment désordre, parce qu'ils ont quand même gagné à Clermont en début de saison. Donc c'est ce qui est plutôt pas mal quand même, parce qu'on s'y attendait pas, malgré le fait, comme tu l'as expliqué précédemment, qu'il y a beaucoup de joueurs manquants à Clermont. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans la continuité de la saison passée. Donc ça va être dur, parce qu'en plus des équipes qu'on pouvait estimer plus faibles, comme Bayonne, Agen, Brive, ça tourne plutôt pas mal. Enfin, surtout Bayonne, qui fait un début de saison extraordinaire. Donc oui, ça va être compliqué. C'est vrai que ces matchs-là... avant-hier, c'est vrai qu'ils jouent contre Lyon, qui marche sur tout le monde en ce début de saison. Donc le match était quand même plutôt, on se doutait qu'ils allaient perdre, mais c'est le match contre le Racing qui fait pas une super début de saison. Ils prennent 30 points, ils prennent le bonus
à domicile,
oui, 30 points à la maison, et on voit que le Racing est pas au top. Ils font match nul à la maison contre Agen le week-end d'après. Ça peut être compliqué. Ouais. Je pense qu'ils sont sur une spirale un peu négative. Alors donc il y a les Iliens qui ont fait la Coupe du Monde qui reviennent. Est-ce que ça va changer quelque chose?
Mais ils vont arriver un peu cramés aussi, parce que
oui, en plus il y a 15 jours hein, de.
Il y a 15 jours, oui, ils vont reprendre la compétition au mi-novembre. Et les Néo-Zélandais qui vont arriver aussi, Ben Smith et Luke Whitelock.
Yes,
et pour rebondir sur ce que dit Marc, c'est vrai qu'on avait eu des légers espoirs, même des gros espoirs de bons championnats, on va dire, en début de saison, notamment avec cette victoire exceptionnelle, j'ai envie de dire, contre
match
Clermont.
En plus, il n'y a rien à dire.
Avec la qualité et les points qui vont avec, et la qualité aussi de jeu. Et là, on voit depuis 2-3 matchs, surtout le match contre le Racing qui a été grosse claque, on va dire, et c'est dommage. Donc on espère plus grand chose. Le public commence un peu déjà
Le stade est quand même relativement vide depuis le début de saison, donc c'est pas avec des résultats comme ça qu'on va faire.
Et la section qui n'a même pas commenté le match sur les réseaux sociaux, il n'y avait rien en fait depuis ce matin sur le match, parce que je pense qu'ils savaient même pas quoi dire du match. D'habitude, il y a une petite photo, quelque chose qui fait un peu le résumé du match. Là, rien, silence radio, donc je pense que...
Mais c'est ça, ça fait dommage qu'ils se font piétiner. À un moment donné, il faut faire profil bas, mais c'est qu'il y a quelque chose qui... Un petit déclic, ou je sais pas, on pensait qu'ils allaient avoir le déclic, on était hyper contents du début de saison.
Après, l'effectif est quand même pas extraordinaire.
Et il est assez pléthorique quand même.
Je suis pas sûr, ils ont perdu pas mal de joueurs. C'était bien si tu devais placer ce mot
dans la soirée. Ouais.
Non, parce qu'enfin, je trouve que l'effectif est un peu plus faible. Ils se sont pas forcément bien.
On verra s'il est plus faible après le retour des Néo-Zélandais qui peuvent un peu influencer.
Je pense que cette année va être compliquée. Ça va être dur de se maintenir. On pensait que le Stade français était un peu au fond du seau. Ils ont battu Toulon à la fin. Ils reçoivent Castres qui vient de perdre à Toulouse, mais qui fait un début de saison plutôt correct. On verra le prochain match, parce qu'effectivement, s'ils gagnent, ils rebasculent dans la bonne moitié du championnat.
Oui, après, on est qu'en octobre.
Hein, c'est très serré.
Oui, mais il y a toujours des physionomies de match qui font que c'est quand même inquiétant ou pas.
Oui,
inquiétant.
Oui, non, mais c'est clair.
C'est comme j'ai dit tout à l'heure avec l'élan, qui sont à 2-2, mais ils sont plus inquiétants que quand ils étaient à 1-3. Quoi. C'est juste un état d'esprit. C'est exactement ça. C'est la fameuse spirale négative de Cadi Marco. On peut pas être content de ce qui se passe. Quoi. Après, oui, c'est vrai que c'est que le début de saison, mais le début de saison veut en dire beaucoup généralement sur la fin. En tout cas, dans la continuité des 2-3 prochains matchs. C'est vrai que peut-être que contre Castres, c'est un match qui est archi important.
Ah, il est charnière pour moi. Parce que là, s'ils perdent.
C'est un concours de mots On n'est pas au courant. Ouais,
charnière, c'est quand même bon. C'est pas trop.
Ouais, ça va. Ouais. Petite question pour Franck Charles, l'entraîneur de l'équipe de foot de Pouet de l'Escar. Est-ce que tu t'intéresses un peu au rugby ou à d'autres sports que le foot?
À tous les sports co, oui, ouais. Notamment nos clubs locaux. J'y vais dès que je peux. Et je suis du même avis, je crois que c'est une saison qui s'annonce quand même compliquée. Moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est que la fin de saison dernière était déjà pas folichonne. Et là, je crois que Coupe du Monde ou pas, ça sent pas bon. Il va falloir réagir très vite.
On va dire heureusement qu'il y a la Coupe du Monde, parce que les Palois sont pas amputés non plus.
Heureusement, c'est pour ça que je dis ça. Mais c'est ça, ouais. Je pense que la réaction, là, il faut qu'elle arrive dans le prochain mois, même avant.
Et pour rebondir sur ce que dit Franck et sur ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit que 20%
tu rebondis beaucoup, Olivier, ce soir.
Oui, j'ai rêve de faire du trampoline.
J'ai le physique pour. Et du coup, c'est 20%, l'entraîneur fait 20%. On a vu que l'éviction de Mannix n'a pas été un électrochoc. Quoi. C'est, je ne vais pas dire au contraire, mais en tout cas, il n'y a pas d'amélioration nette du résultat et du contenu. Et donc
le staff a été un petit peu repensé. Il y a eu des choses qui ont changé.
Donc c'est peut-être les joueurs. Quoi.
Ouais, une première saison, donné. C'est jamais simple non plus.
Oui, oui, je sais. Après, je c'est pas à charge de.
Ouais, il a déjà eu la fin de saison dernière pour se préparer quand même. Oui,
c'est surtout voilà. Les joueurs. On a vu d'ailleurs contre Clermont, c'était beaucoup de jeunes qui ont joué.
Ouais.
Et au final, ça a bien marché, quoi. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas plus s'appuyer sur les jeunes et des Français, jeunes Français, des GIF? Pourquoi pas plus s'appuyer sur.
C'est un problème, ça.
Oui,
Mathilde.
J'ai une petite réaction justement sur les réseaux sociaux de notre cher ami Ludo. Je pense que Ludo va pouvoir venir participer à l'émission parce qu'il nous commente toute l'émission. Il nous dit que voilà, l'équipe est moins qualitative que l'année passée, mais elle est plus solidaire. À Lyon, il n'encaisse que 2 essais, résiste bien sur la fin, alors que le Loup cherchait le bonus offensif.
C'est super, oui. Ils sont contents. Ils sont contents, s'il y a de la main. Ils sont là, ils sont contents, s'il y a de la main. Ils sont plus solidaires. Oui, mais enfin, d'un côté, il faut un peu avoir des joueurs de rugby aussi. C'est pas ça.
Voilà, je trouve que ça va très bien clôturer la discussion. Merci Olivier. En tout cas, je suis content. Ce chiffre de 11, donc les points marqués par la section paloise sur les deux derniers matchs, vous a fait réagir. C'était le but. Vous retrouverez notre chiffre, bien évidemment, la semaine prochaine dans le Cop Inside. On se quitte quelques instants. On se retrouve juste après pour la dernière chronique de cette émission avant de se dire au revoir à 20h30. Toujours avec Franck Charles, l'entraîneur de l'équipe de football de Pouet de l'Escar. À tout de suite sur Radio Inside. Vous écoutez le Cop Inside, on est ensemble et en direct jusqu'à 20h30, c'est-à-dire pour encore 4 petites minutes, c'est exactement le temps qu'il faut pour que Marc brille dans sa dernière chronique.
Le pari gagnant de la semaine, c'est dans Cop et Match.
Cop et Match, Marc,
c'est
à toi de jouer.
C'est pas moi qui vais briller, c'est toute l'équipe.
Ouais, on va essayer. Voir
si toi tu brilles déjà grâce à ton front.
Donc là on va parler un peu de rugby de clocher, un petit peu pour le match de la semaine prochaine. C'est un derby en Fédéral 1. Un derby au Pyrénéen qui va opposer le Stade Bagnéret à Lannemezan. Donc je vais mettre un peu quelques données pour vous aider un petit peu, vous influencer un petit peu. Donc ça a lieu dimanche prochain, déjà c'est important le dimanche.
À quelle heure?
À Bagnères, à 15h30, d'accord. Donc Bagnères est dernière de la poule, avec une seule victoire en 5 journées. Lannemezan est 9e, avec 2 victoires, mais dans une victoire ce week-end contre le Stadeau, qui a fait... c'est bizarre que tu n'en aies pas parlé quand même, parce que au Stadeau ça fait jaser un petit peu quand même ces histoires. Mais Mathilde, c'est bizarre qu'il n'y ait pas eu de commentaires sur les réseaux sociaux sur ce match-là. L'année dernière, les deux équipes se sont affrontées 2 fois. Bien sûr, ils étaient dans la même poule. Lannemezan a gagné 2 fois, à l'aller et au retour. À vous de me faire les pronostics. On va dire match nul, victoire de 10 points, de 0 à 10 points, pardon, ou de plus de 10 points. Je suis sympa quand même. Pour le rugby, on va faire comme ça pour cette année. Ça vous va?
Oui. Allez, parfait. Ok.
Allez.
Qui se lance?
Moi, je lance sinon.
Allez, vas-y.
Ah non, Mathilde, histoire qu'on rigole un peu. Après...
C'est moi qui donne l'ordre, s'il vous plaît.
Ah, pardon.
Ouais. C'est lui le chef.
Alors, qui démarre?
Mathilde.
Voilà.
Honneur aux dames.
Ça veut rien dire.
Allez, moi, je suis sympa. Je vais mettre une victoire pour Bagnères.
De combien?
De.
Et le but du jeu, c'est pas d'être sympa. Alors, c'est de gagner aussi. Hein.
C'est de 0 à 10.
Ouais, de 0 à 10 quand même. De 0 à 10. Allez.
Okay.
Il ne faut pas se fier qu'aux résultats passés. Peut-être qu'ils vont justement vouloir prendre leur revanche. Et ils vont...
Alors, c'est vrai que dans les derbies, je vais te donner raison, il y a souvent des surprises quand même.
C'est ça. Donc, moi, je vais dire une victoire de Lannemezan de plus de 10.
Moi, je vais rejoindre Mathilde.
C'est une
victoire du Stade Bagnéret de moins de 10 points.
D'accord. Et moi, je vais dire match nul.
Franck, un petit pronostic.
Et Franck,
moi, je travaille dans les Hautes-Pyrénées, donc je vois bien une petite surprise de Bagnères sur un petit écart.
C'est Union Sport de 6 points.
Ah, c'est pas mal.
Ça, c'est de la précision. Si tu gagnes de 6 points, Olivier, t'invite à boire un coup.
Ah, sans problème. Si c'est plus 6 pour Bagnères. Oui.
Ouais, c'est ça.
Allez,
donc,
c'est vendu.
Donc voilà, toutes les semaines, ça sera ça. Un petit match. Pas forcément des gros clubs, peut-être de temps en temps sur des grosses parties. Et je vous donnerai quelques petits éléments pour vous aider.
Merci, Marc.
Résultat la semaine prochaine.
Impeccable. Merci. À toutes et à tous, merci à vous qui nous écoutez ce soir sur le Cop Inside. Merci aux animateurs, bien sûr, toujours fidèles au poste. Merci à nos invités, Denis Badi, organisateur de la Féminine de Pau, qui était avec nous tout à l'heure. Merci Franck Charles, à qui je vais laisser le dernier mot, l'entraîneur de l'équipe de foot de Pau et de l'Escar, qui a bien démarré sa saison en championnat, à qui on souhaite le meilleur pour la suite. Voilà, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Pau et de l'Escar là, pour ce week-end du côté de Pau d'Ansac et pour la suite de la saison?
Pour ce week-end, résultat nul à l'extérieur, je signe de suite. Pour notre saison, on maintient en R2.
Pas trop de blessés, tant qu'à faire.
Pas trop de blessés, surtout. Ça va être le gros souhait des prochaines semaines. Et puis, on va espérer, si l'objectif est atteint, de revenir vous voir. Parce que je crois que vous nous portez un petit peu chance. Donc,
on va essayer de continuer.
Ça sera avec plaisir. J'apprécie toujours les invitations.
Merci à toi. On espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie ce soir. Et bien sûr, on te retrouve bientôt sur l'antenne de Radio Inside, dans le Cop Inside désormais. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Quelqu'un veut rajouter quelque chose, Olivier? Allez, on a une petite minute si tu veux. T'es content d'avoir repris ce soir?
Je suis très content d'avoir battu au jeu déjà.
Ouais, c'est vrai.
Je suis très content d'être seul en
tête. Je flingué tout seul quand même.
Ça on verra.
Je considère que j'ai déjà gagné au pronostic, c'est bien. Bon, on va bien boire à la fin de la saison. Mathilde nous aura payé un bon coup. Non, très content de retrouver les potes aussi. Ça fait vachement plaisir et surtout un des deux, mais je dirais pas lequel. Voilà.
Allez, on se retrouve lundi prochain entre 19h et 20h30 sur Radio Inside pour le Cop Inside. Je vous l'annonce tout de suite. Et nous recevrons Virginie Kolanowski qui participait hier au marathon de Chicago. Nous recevrons aussi Laurent Poublan qui est le gérant du trampoline park Positive Jump qui vient d'ouvrir à Pau. Donc on parlera tu pourras rebondir pour de bon cette fois-ci, Olivier. Pour l'heure, c'est le retour du son sur Radio Inside avec Shawn Mendes et Camila Cabello. Bonne soirée à toutes et à tous et à lundi prochain.